Et de quoi était tissée cette tristesse? Et pourquoi, d'une certaine façon, j'avais, enfin, je crois, pas trop m'être trompé dans cette perception de la tristesse. Qu'est-ce qu'elle, d'une certaine façon, qu'est-ce qui allait se déployer à partir de là? Je dois vous dire une chose assez amusante. Là, on ne le voit pas, cette photo, et je vais rechercher la photo où on le voit, mais je ne l'ai pas, je l'ai pas là, sur les réseaux, elle n'y est pas. Elle est sur la photo que ma mère m'a ramenée. C'est une chose assez à la fois amusante et c'est que qui est aussi au départ de ce livre, c'est que ma mère est revenue de ce voyage justement avec cet enthousiasme. Elle avait le sentiment d'avoir participé à un événement historique majeur, ce qui était d'ailleurs un événement historique majeur, mais avec la joie et l'enthousiasme dont je parlais. Mais elle est revenue aussi avec ce récit que, avant que les caméras n'arrivent, certains auditeurs qui étaient là réunis alors que Rostropovitch venait de s'installer, et comme je vous le répète pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un maître, enfin, c'est un maître absolu de son instrument et accessoirement une figure, puisqu'il était justement lié à l'histoire de la dissidence, un ami de Soljenitsyn et autres. Ma mère me raconte que, en fait, lorsqu'ils sont arrivés, les premières personnes, en passant, ne reconnaissant pas Rostropovitch, se sont mis à lui jeter des pièces, comme à un monde. Voilà. Et donc ça, c'est le point de départ du livre. Comment est-ce que le maître est soudain transformé en mendiant? Après, c'est une sorte de méditation sur l'Europe qui passe par la littérature, qui essaie de comprendre, comme je vous le disais, de quoi est tissée cette tristesse. Je pense que à travers ce livre, on voit apparaître beaucoup, beaucoup des thèmes qui sont importants chez moi. La question de l'articulation de la mémoire et de l'avenir. Comment est-ce qu'il y a des fantômes, d'une certaine façon, dans les temps. C'est une expression que j'emploie dans le livre, que je reprends à un philosophe, qui est l'expression de hantologie, le fait d'être hanté. Qu'est-ce qu'il y a donc, et particulièrement accessoirement dans cette histoire européenne, qui est là, dans cette présence du passé? En fait, c'est ça, figurer dans cette présence du passé, ça rejoint ce que je vous disais sur le livre en cours. Je vais m'intéresser à ça. Comment est-ce que le passé, d'une certaine façon, ou j'allais dire la maladie du passé, continue d'œuvrer? Et je crois que cette maladie du passé, bon, là, on est en 2019, on est 10 ans après l'écriture de ce livre, à un moment où, évidemment, on voit revenir ces formes de vent mauvais que l'Europe a connues, que l'on appelle nationalisme ou autre fascisme léger, mais qui sont pour moi toujours liés à ces mécanismes de répétition, et ce qu'analysait le être et le boulot, ce que je cherchais à comprendre, notamment déjà, c'est l'explosion, la ruine, encore une fois, de ce en quoi j'ai grandi, et de ce qu'on appelle la pédagogie de la mémoire. L'idée qu'en enseignant aux enfants ce qui s'est passé, ça va aller beaucoup mieux. Qu'il suffit de raconter le XXe siècle pour que, en fait, on ne répète pas. Et donc je crois qu'on vit désormais pleinement dans cette faillite de ce que j'appelle la pédagogie de la mémoire, qui sans doute d'ailleurs obligerait, mais ça n'est pas ma charge, ça n'est pas mon affaire, quoi, que parfois je serais heureux d'y participer, mais qu'il faudrait revoir toutes les pédagogies au fond. Mais en tout cas, voilà, le être et le boulot cherchent ça, mais ils ne cherchent pas seulement, disons, à observer ce qui mélancoliquement a échoué. C'est un livre aussi qui, vers la fin, cherche justement des sources. Et c'est sans cesse ce mouvement-là chez moi. C'est un mouvement qui est assez lucide, souvent, sur ce qui a échoué, et sur des formes de persistance mélancolique ou de tristesse, mais toujours pour essayer de voir comment est-ce que l'on retourne ça, en fait. Comment est-ce que l'on arrive à retrouver des issues ou des horizons d'avenir. Comment est-ce que l'on resculpte un avenir qui soit, disons, désirable, ou souhaitable, ou expérimental. c'est-à-dire qui valent l'expérience. Et donc, il y a toute une méditation à la fin du livre sur la question des langues, sur laquelle, je ne sais pas si certains d'entre vous voudront revenir, la question de la traduction. Mais Pierre m'avait demandé de ne pas parler de l'entre des langues. Pierre Ducrozet, qui est un autre résident ici, parce qu'il connaît ce refrain-là. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, ça, c'est le être et le boulot. Ensuite, il y a une autre image qui est liée et qui est peut-être, alors qui déplace un peu la question. Ça, c'est le panorama. Vous avez, si vous voulez, on en est là, c'est le temps. Le temps dans lequel j'écris, moi, c'est un temps entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Voilà, si à peu près je meurs à un âge moyen, je pense que je meurs autour de... Bon, on meurt jeune dans ma famille, les hommes meurent jeunes, mais... Voilà, disons un horizon 2050, c'est pas mal. Si j'arrive au-delà, c'est même bien, vu les hommes de ma famille. Donc, ça donne ça. Et c'est pour ça que ça aussi, c'est très structurant pour vous compreniez ce que je fais et qui je suis. C'est que j'ai toujours ça à l'esprit. Qu'est-ce que c'est d'écrire à ce moment-là? Et avec une vie qui a un pied dans le XXe siècle et un pied dans le XXIe siècle. Et sans doute que des écrivains qui seraient plus jeunes vont avoir tendance à vraiment s'engager pleinement dans le XXIe siècle, en disant d'ailleurs, ça arrive très souvent, on me dit « oui, mais on ne s'intéresse plus trop, c'est fini le XXe siècle ». Vous savez, ce côté un peu « c'est fini, c'est plus là ». Bon, je crois qu'il y a une petite erreur d'analyse à cet endroit-là, quoi. Précisément pour la raison que je vous disais, sur la façon que le présent a d'être passé, a d'être traversé par du passé. Mais bon, en tout cas, c'est ce temps. Et maintenant, on passe à une autre question à l'aide de sur la question littéraire. Et c'est la forme d'un livre. Et pourquoi une forme esthétique ou une forme d'un livre, ça engage un certain rapport au monde? Pourquoi c'est important? Alors, j'ai choisi ça. Vous voyez ce que c'est, ça? Vous connaissez cette peinture? Non? Elle est de Picasso. Et c'est un des collectionneurs de l'époque qui l'a beaucoup acheté, qui s'appelle Antoine Vollard. Bon, ça pourrait être les Demoiselles d'Avignon, hein, ça pourrait être un autre peinture cubique, je veux dire par là que là, ce qui m'importe, c'est le cubisme, là, pour vous parler des formes. Picasso, lorsqu'il s'est mis à accueillir le cubisme, c'était pas forcément donné, je crois qu'il y a une belle exposition d'ailleurs à... C'est à Bâle ou à... Non, c'est à Lausanne. À Lausanne ou à Bâle sur... la période bleue, la période de jeunesse de Picasso. C'est à bas. Bien. Je crois qu'elle se termine bientôt. Donc, c'est une période que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, je préfère d'ailleurs beaucoup la période de jeunesse de Picasso. Et d'ailleurs, j'aime pas beaucoup Picasso. Mais, parce que j'aime pas son arrogance, et en général, j'aime pas les arrogants. Mais j'aime pas les gens. Mais peu importe. Là, c'est la forme. Et donc, il disait une chose, qu'il disait, maintenant, on ne peint plus ce que l'on sent. Donc là, c'était une balle pour les impressionnistes, mais ce que l'on sait. Et ça, c'est pour moi un engagement très fort, et ça joue sur la question des formes que je recherche. Pour moi, un livre ou une forme littéraire, ou une forme d'ailleurs d'art, c'est pas simplement la fantaisie d'un artiste, ou une sorte de chose, et d'art, mon imagination m'a conduit là, j'ai eu envie de... C'est bien. Ça peut faire des trucs super bien, mais c'est pas ma manière de faire. Parce que je pense que j'entretiens un dialogue permanent avec les sciences dures, avec les sciences humaines, que je lis beaucoup de philosophie, que je cherche à voir ce qui est dans les temps, qui font que les temps changent de forme. Et donc il dit ça, et il dit ça à un moment où on est grosso modo entre... l'écriture, ou disons le rendu de la théorie de la relativité restreinte, donc Einstein, et la théorie de la relativité générale. Il y a 10 ans qui s'écoulent à peu près. C'est le moment où explose, où s'impose le cubisme. Et ce que je veux vous dire là, c'est que c'est lié à cette vie potentielle. Il y a d'autres images d'ailleurs qui sont liées à cette vie potentielle pour voir comment c'est tracé. Mais peut-être ce qu'on peut retenir, c'est que ce sujet, disons masculin, qui depuis, je dirais presque, le perspectographe de Dürer à la Renaissance, avait imposé sa perspective, c'est-à-dire sa manière de voir le monde, avec juste une forme de maillage qui va donner la cartographie moderne, qui va donner la scission sujet-objet, qui va donner un certain nombre de résultats. Cette perspective explose et se diffracte. Je parlais de la théorie de la relativité générale, mais donc ça c'est pour les mathématiques, mais il y a aussi, parallèlement au cubisme, Freud, on va dire la psychanalyse. Et donc également l'idée que je, celui qui dit je, devant vous là maintenant, est une chose beaucoup plus complexe et beaucoup plus composite et beaucoup plus diffractée que le je de la perspective qui dit voilà, je suis un sujet certain, ou le je de Descartes, si vous voulez. En bref, ça explose, ça implose au début du XXe siècle. Et le cubisme est le résultat de ça. Et une question qui serait une question littéraire à partir de là, c'est donc quel lieu d'énonciation ou quelle forme rend compte de cette explosion du lieu d'énonciation du sujet. Et il y en a un exemple auquel je pense, parce que j'ai travaillé dessus là récemment, qui est un livre de Faulkner, qui est « Tandis que j'agonise », qui est en fait l'avènement du roman choral, d'une certaine façon, avec une forme de folie quantique, pour ceux qui savent et qui sont un peu au courant de la mathématique. C'est-à-dire, au fond, sans cesse un changement de perspective, sans cesse un changement du lieu d'énonciation, et où on n'arrive jamais à se dire « mais où est le réel ?»